Vous écoutez On lit pour vous.
Ces Québécois qui ont lutté pour l'indépendance américaine. Un dossier de Jean-Christophe Laurence paru le 14 juin 2026 dans la presse. Le 4 juillet, les États-Unis fêtent le 250e anniversaire de leur déclaration d'indépendance. Bien peu savent cependant que quelques centaines de Canadiens français ont participé activement à cette révolution. Un épisode souvent négligé dans les livres d'histoire. Premier texte. À deux doigts d'un basculement de l'histoire. Le 6 mai 1776, il y a 250 ans et des poussières, trois navires de guerre britanniques apparaissent dans le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Québec, avec à leur bord environ 3000 soldats. Leur arrivée marque la fin du siège de la ville entreprise 6 mois plus tôt par l'armée américaine qui tentait de conquérir la « Province of Quebec ». Ce court épisode de l'histoire nord-américaine est peu connu. Aux États-Unis, on le passe sous silence depuis plus de 2 siècles, et pour cause. Ce fut un premier revers pour l'armée du Congrès des 13 colonies unies d'Amérique, version embryonnaire des États-Unis. Et pourtant, il s'agit d'une étape importante dans la marche vers la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776. Ce qui est encore moins connu, c'est que des Canadiens français ont collaboré à cette invasion et qu'environ 300 d'entre eux ont carrément pris les armes pour se battre aux côtés des Américains. Ils se nommaient Clément Gosselin, Pierre Ayotte, Joseph Bergeron. Et il mérite au moins quelques lignes dans le grand livre de la Révolution américaine. Envahir. En 1775, le feu de la Révolution américaine brûle déjà. Accablés par des taxes qu'ils trouvent injustes et contrariés par l'acte de Québec de 1774, en lequel ils voient une menace à leurs intérêts, les 13 colonies remettent en question leurs relations avec Londres. En 1773, le Boston Tea Party a marqué un basculement vers l'insoumission. En avril 1775, les batailles de Concord et Lexington lancent le début des affrontements entre les milices américaines et les manteaux rouges de l'armée britannique. À ce stade, les Américains se méfient de la Province of Quebec. Le Canada est devenu possession anglaise il y a 15 ans. Ils craignent que Londres ne leur envoie de nouvelles troupes en provenance du Nord. Les 13 colonies souhaitent donc agir préventivement en envahissant ce voisin menaçant. D'autant que des rumeurs parlent d'une alliance entre les Anglais et les 7 nations autochtones. Le Congrès américain décide donc d'envoyer 2 armées vers le Nord pour conquérir ce qui pourrait devenir la 14e colonie et bouter les Britanniques hors d'Amérique du Nord. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Après avoir pris Montréal sans difficulté le 13 novembre 1775, le général Richard Montgomery rejoint en décembre le colonel Benedict Arnold à Québec. Le 31 décembre 1775, en pleine tempête de neige, les 2 contingents tentent de prendre la ville. Mais ils se butent à une résistance efficace menée par Guy Carleton, gouverneur du Québec. Montgomery est tué. Arnold blessé. L'assaut est un échec. L'armée américaine doit se contenter d'assiéger la ville, ce qu'elle fera jusqu'à l'arrivée des renforts britanniques au début de mai 1776, qui actera le début de sa déroute. Le doute et la neutralité. Plusieurs raisons expliquent l'échec de l'invasion américaine, la principale étant le manque de ressources et d'effectifs. Autre problème, la plupart des soldats n'étaient enrôlés que pour une durée déterminée, ce qui fait qu'après l'assaut raté sur Québec, l'armée américaine a dû se reconstituer et se réorganiser dans un contexte hivernal peu favorable. Il y a aussi la non-intervention des Canadiens français. Alors que les Américains comptent sur un soulèvement général de la population, les Québécois optent plutôt pour une forme de neutralité. Cela a incontestablement contribué à l'échec de l'invasion, résume l'historien américain Mark Anderson, auteur du livre « Battle for the 14th Colony », une référence sur le sujet. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Entre 1774 et 1775, le Congrès américain a envoyé 3 lettres officielles aux Canadiens français pour les inviter à se joindre aux 13 colonies. Petit problème. La majorité de la population ne sait ni lire ni écrire, ce qui a réduit la portée du message. De plus, le clergé et les élites ont intérêt à rester du côté britannique. Ils convainquent une majorité de Canadiens français de ne pas s'en mêler pour préserver leurs acquis obtenus par l'Acte de Québec, liberté de religion, droit civil français. Il y a enfin une part de doute. Les Américains ne se sont pas encore officiellement branchés sur l'idée de l'indépendance et certains espèrent encore une réconciliation avec la Grande-Bretagne. Les Canadiens français craignent que les 13 colonies ne finissent par trouver un accord avec la Grande-Bretagne sans inclure le Québec, avec les conséquences incertaines que cela implique. « On peut parler d'une crainte de l'inconnu », explique Mark Anderson. « Une crainte alimentée par le manque de clarté des engagements du Congrès continental envers le Canada. » 3 morts à la bataille de Saint-Pierre. Mais on aurait tort de croire que les Canadiens n'ont pas du tout participé à cette campagne. Bon nombre de Canadiens français vont malgré tout épouser la cause, que ce soit par intérêt commercial ou parce qu'ils croient vraiment au projet américain. En Beauce, dans la vallée du Richelieu, en Mauricie, certains vont faciliter le passage des milices dans leur route vers Québec. D'autres vont carrément prendre les armes pour participer au siège de la ville de Québec en s'enrôlant notamment dans le Regiment Congress Own sous le commandement du colonel Moses Hazen. Combien sont-ils? Difficile à dire. Selon les sources, ce chiffre varie de 200 à 400 hommes. Mais on sait que ces volontaires ne se battront pas en première ligne. Leur rôle sera surtout de surveiller les Anglais depuis Lévis, ce qui ne les empêchera pas d'être impliqués dans au moins une bataille le 25 mars 1776 au village de Saint-Pierre, près de Montmagny. Une expédition de royalistes avait été organisée pour chasser les Américains de leur camp de Pointe-Lévis, raconte l'historien Gaston Deschênes, auteur du livre « Un pays rebelle, la côte du Sud et la guerre de l'indépendance américaine ». Ils ont été bloqués par une force combinée d'Américains et de rebelles canadiens. L'affrontement se conclut par 3 morts, 30 de blessés et 30 de prisonniers. « Ça a été le seul moment où on peut dire que les rebelles ont eu une confrontation », ajoute M. Deschênes. Des idées qui mijotent. Impossible de savoir ce qui serait advenu du Québec si l'invasion américaine avait été un succès. L'écrivain et essayiste Pierre Monnette est toutefois convaincu que malgré son échec et sa courte durée, cette campagne militaire a imprégné le monde des idées au Canada français à long terme, notamment à cause des milliers de tracts qui avaient été envoyés par le Congrès américain à la population locale. La rébellion de 1837 est l'héritage direct de cette invasion ratée, suggère l'auteur du livre « Rendez-vous manqué avec la Révolution américaine » paru en 2007. Avec la propagande américaine, ce sont de nouvelles idées politiques qui rentrent. Il y a du monde qui en parle, il y a du monde qui les lie aux autres. Ils nous apportent l'idée d'un gouvernement autonome, l'idée républicaine, l'idée que l'autorité du droit divin du roi, peut-être pas. Il y avait certes déjà des tensions de classe entre la noblesse, la bourgeoisie et les gens ordinaires. Mais selon Pierre Monnette, elles seront exacerbées par la présence américaine. « Ça va prendre du temps à mijoter », conclut-il. « Mais ces problèmes-là vont continuer à bouillir. » Jusqu'à ce que la marmite explose en 1837 avec la rébellion des Patriotes. Vous écoutez « Ces Québécois qui ont lutté pour l'indépendance américaine », un dossier de Jean-Christophe Laurence paru le 14 juin 2026 dans la presse. Repère historique. Acte de Québec. Cette loi adoptée par le Parlement britannique en 1774 fait d'importantes concessions aux Canadiens français, comme la liberté de religion catholique et le rétablissement du droit civil français, et redessine les cartes en donnant l'immense vallée de l'Ohio à la province de Québec. Les 13 colonies, qui ont commencé à se détacher de l'Angleterre, se sentent bloquées dans leur expansion et encerclées par un Québec immense contrôlé par Londres. L'acte de Québec s'inscrit dans la liste des « intolérables actes » qui conduiront à la Révolution américaine. Boston Tea Party. Excédés par les taxes imposées par Londres, des colons américains montent dans trois navires britanniques amarrés dans le port de Boston et jettent à l'eau toute leur cargaison de thé. Ce geste de protestation politique est un des éléments déclencheurs de la Révolution américaine, tout comme la bataille de Concorde et Lexington d'avril 1775, premier affrontement armé entre les Britanniques et les forces du Congrès. Deuxième texte. Des Canadiens français, espions des Américains. Ils s'appelaient Clément Gosselin, Pierre Ayotte, Michel Arbour ou la veuve Gaboury. Ils ne voulaient pas des Anglais et ont épousé la cause de la Révolution américaine, certains jusqu'à devenir espions. Mais qui sont ces Canadiens français qui ont cru à la cause américaine au point parfois d'être excommuniés? Clément Gosselin, 1747-1816. Il est le plus connu des quelques centaines de miliciens francophones qui ont combattu pour l'armée américaine. Originaire de l'île d'Orléans, Clément Gosselin épouse sans hésiter la cause révolutionnaire et devient capitaine dans le régiment du Congrès, commandé par Moses Hazen. Pendant le siège de Québec, il se rend indispensable aux forces du Congrès, que ce soit en recrutant, en dirigeant des hommes ou en maraudant contre les Anglais. « Il était leur homme sur le terrain dans la région », résume l'historien états-unien Mark Anderson, auteur du livre « Battle for the 14th Colony ». Après l'échec de l'invasion américaine, Clément Gosselin continue de se battre pour l'armée américaine et rêve d'un Québec républicain. Après 1778, George Washington en personne lui demande de faire de l'espionnage dans le but de lancer une possible nouvelle tentative d'invasion américaine qui s'avérera n'être qu'un leurre. Il faisait des observations surtout sur la défense de Québec, sur l'état de la population, ce qu'elle pensait, explique l'historien Gaston Deschênes qui s'est spécifiquement intéressé aux rebelles de la côte du Sud, Montmagny, La Pocatière, Kamouraska, dans son livre « Un pays rebelle ». Je ne crois pas que ça a joué un rôle important, surtout que ça n'a finalement pas été utilisé. Mais il prenait des risques. Gosselin a ensuite participé comme soldat à la bataille de Yorktown en 1782 avec une poignée d'autres Canadiens français. Après la Révolution, il plaide pour que les francophones qui ont aidé l'armée américaine soient dédommagés par l'octroi de terres dans l'État de New York. On se souvient de lui parce qu'il a laissé des écrits. Résume M. Deschênes. En 2023, Clément Gosselin a été reconnu personnage historique du Québec par la municipalité de Sainte-Famille. Pierre Ayotte. C'est l'autre nom qui revient souvent, et pour cause. Recruteur sous-officier, copain de Clément Gosselin, Pierre Ayotte se révèle particulièrement actif pendant le siège de Québec. Campé à Lévis, il recrute des hommes, s'occupe de la batterie et alerte les Américains contre d'éventuelles attaques des Anglais. Il participe aussi à la bataille de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud, qui fait 3 morts et des dizaines de blessés. On peut dire avec certitude qu'il a joué un rôle, même s'il était minime, résume Mark Anderson. Pierre Ayotte finit par être capturé par l'armée britannique et croupit en prison 6 mois. Libéré pour bonne conduite, il s'établit ensuite à Montréal. C'est la fin de sa carrière militaire. Il n'a pas été combattre dans le Sud après, même s'il a essayé de plaider le contraire, conclut Gaston Deschênes. Les reines de Hongrie. Des femmes aussi aident les Américains. On les appelle les reines de Hongrie, parce qu'elles ont du tempérament et se mêlent de politique, comme Marie-Thérèse, qui règne alors sur la Hongrie. Agitatrices, propagandistes, elles haranguent les foules pour les rallier à la cause. Ce n'est pas un groupe organisé, mais plutôt des figures diverses, réparties entre l'île d'Orléans, la Beauce et la côte du Sud. La plus connue reste la veuve Gaboury, de Saint-Vallier, dont le caractère bouillant semble avoir marqué les esprits. Dans son rapport de 1776 sur l'invasion américaine, le loyaliste Franz Bebe écrit ceci. La veuve Gaboury, sikh, surnommée la reine de Hongrie, a fait plus de mal dans cette paroisse qu'aucun autre. Elle tenait souvent chez elle des assemblées où elle présidait, tendant à soulever les esprits contre le gouvernement et à les animer en faveur des rebelles. Pour mieux parvenir à son but détestable, elle leur faisait boire des liqueurs fortes. Michel Harbour. Michel Harbour s'enrôle dans les milices américaines avec un seul objectif, bouter les Anglais hors d'Amérique du Nord. Comme Gosselin, il se bat auprès des forces révolutionnaires jusqu'à sa démobilisation en 1783. Ses allégeances lui vaudront l'inimitié du clergé. Revenu chez lui dans le bout de Montmagny, le curé refuse de le marier parce qu'il est trop anti-monarchiste. Le clergé avait reçu des instructions au début de l'invasion américaine de ne pas donner de sacrement aux rebelles, explique Gaston Deschênes. Il obtiendra finalement gain de cause. En revanche, il n'aura pas réussi à se débarrasser des Anglais. Joseph Traversy. Originaire de Nicolette, il soutient l'invasion des Américains en désignant les royalistes qui posent problème. Dans les années suivant l'invasion, il devient agent de renseignement pour les Américains. Un espion important, précise Mark Anderson. Excommunié. La légende veut que Clément Gosselin et une poignée d'autres Canadiens français aient été excommuniés en raison de leur allégeance envers les Américains. Rappelons que le clergé était du côté des Britanniques. Selon Gaston Deschênes, ce n'est en effet qu'une légende. « Je n'ai rien trouvé », dit celui qui a effectué les recherches les plus poussées sur le sujet pour ce qui concerne la côte du Sud, région alors particulièrement hostile à la monarchie britannique. 5 habitants de Saint-Michel-de-Bellechasse ont toutefois été enterrés en terre profane, mais l'historien croit qu'ils s'étaient d'eux-mêmes retirés de la communauté catholique après avoir pris un curé à partie en 1775 pour des raisons politiques. Ces corps ont été exhumés dans les années 1880 et font l'objet d'un poème de Louis Fréchette, « Les excommuniés ». Concernant Clément Gosselin, M. Deschênes persiste et signe. Il croit que la rumeur de son excommunication a été entretenue parce que cela contribuait à sa réputation. Le fait d'être excommunié montre que tu étais un vrai rebelle, conclut-il. Vous écoutez, ces Québécois qui ont lutté pour l'indépendance américaine, un dossier de Jean-Christophe Laurence paru le 14 juin 2026 dans la presse. Troisième texte. Et si les Américains avaient gagné? C'est la question qu'il est absolument inutile de se poser et qu'il est pourtant difficile de ne pas poser. Que serions-nous devenus si la prise de Québec par les Américains et une poignée de Canadiens français avait été un succès? Serions-nous devenus le 14e État américain? Un pays indépendant? Pour combien de temps? Parlerait-on anglais aujourd'hui? On a demandé à 4 experts de jouer le jeu de l'Uchronie. Voici leur hypothèse. À mon avis, le Québec parlerait anglais, affirme Madeleine Drouin, journaliste et autrice. Madeleine Drouin s'est intéressée aux velléités de Benjamin Franklin d'envahir le Canada. C'est le sujet de son livre « He did not conquer ». Elle est plus pessimiste. Peut-être que quelques Français auraient survécu, mais les Américains étaient très partisans de l'assimilation. Donc, à mon avis, on parlerait anglais aujourd'hui au Québec. Il y aurait certainement eu aussi une pression à l'époque pour que les Canadiens français deviennent des protestants. On aurait pu inciter des Américains à venir en grand nombre grâce au commerce. Il y avait donc la pêche sur la côte en aval du Saint-Laurent, il y avait encore l'industrie de la fourrure. Je crois qu'il y avait l'exploitation forestière, donc on aurait pu les attirer. Et n'oubliez pas qu'ils étaient en proportion bien plus nombreux. Je veux dire, à l'époque, je crois qu'il y avait environ 2,5 millions d'Américains. Ils se multipliaient à vue d'œil, contre environ 100 000 Canadiens français. Donc, je pense qu'ils avaient probablement l'avantage du nombre. Je pense que ça aurait certainement été plus difficile pour les Canadiens français de préserver leur culture sous la domination américaine. Le Québec aurait rompu avec les États-Unis, affirme Mark Anderson, historien. Vétéran de la U.S. Air Force, Mark Anderson est « the expert American » de l'invasion de 1775-1776. L'auteur du livre « The Battle for the 14th Colony » croit qu'à moyen terme, le Québec aurait fini par rompre avec les États-Unis nouvellement constitués, que ce soit pour des raisons économiques ou pour des raisons politiques. Après la guerre d'indépendance, les États-Unis ont connu des difficultés économiques, car l'Angleterre a empêché les États-Unis de commercer avec l'Empire britannique. Le Québec aurait connu des difficultés économiques encore plus graves que le reste des États-Unis parce que les secteurs de la fourrure et du blé avaient besoin de déboucher au-delà de l'Amérique du Nord. Pour avoir accès au marché et au transport maritime nécessaire au maintien de l'État du Québec, celui-ci aurait probablement été contraint à opérer un rapprochement avec l'Angleterre et une sorte de réintégration dans l'Empire ou à rétablir des relations coloniales avec la France. Sur le plan politique, je pense que le Québec aurait trouvé le moyen de se gouverner tant que les États-Unis étaient une confédération, 1777-1789. Mais j'ai l'impression que la Constitution de 1787, instaurée en 1789, aurait concentré trop de pouvoir au sein du gouvernement central et n'aurait pas suffisamment pris en compte les intérêts du Québec. La création d'un gouvernement plus centralisé aurait été perçue comme une menace pour la francité, le catholicisme au Québec, au point que cela aurait pu empêcher le Québec de rejoindre la Constitution, ce qui aurait été un point de rupture. Le Québec indépendant aurait pu devenir sa propre entité ou chercher à se réunir à nouveau avec la France ou l'Angleterre. Le clergé aurait eu moins de pouvoir, affirme Pierre Monnette, poète, essayiste, romancier, historien. Pierre Monnette s'est intéressé au sujet dans son livre « Rendez-vous manqué avec la Révolution américaine » 2007. Selon lui, le Québec aurait largement bénéficié d'une victoire américaine. « Je pense que ce qui nous a fait très, très mal sur le plan historique, c'est l'échec de la rébellion des Patriotes 1837-1838. Mais il n'y aurait pas eu ça si on n'avait pas été une colonie britannique. » Il n'y aurait pas eu l'acte d'union de 1840 qui faisait des francophones une minorité politique. Il n'y aurait pas eu le clergé qui prend le contrôle à partir de 1887. Si on avait été une des colonies américaines et que la Constitution s'était appliquée à notre territoire, le clergé aurait eu énormément moins de pouvoir dans la province de Québec. Ça aurait changé énormément de choses. On n'aurait pas été dominé par le clergé pendant 100 ans. Toute la structure politique aurait été différente. Évidemment, c'est de la spéculation à 200 000 à l'heure, mais ce qui est certain, c'est que notre destin aurait été radicalement différent. Celui des États-Unis aussi. Je prends juste un détail. Nous, au Québec, on s'entendait bien avec les Sauvages. Les États-Unis, eux, ont toujours eu des problèmes avec les Premières Nations. Mais là, avec toute une partie de la population amicale avec les Autochtones, la conquête de l'Ouest se serait faite de façon différente. Est-ce qu'on aurait fini par être assimilé? Il y a beaucoup de loyalistes qui sont allés en Ontario, dans les cantons de l'Est. On a résisté pareil. On a aussi survécu à l'acte d'union de 1840. Donc, je pense qu'on aurait survécu en étant une des colonies fondatrices des États-Unis. On n'en sait rien. Affirme Gaston Deschênes, historien. L'historien de Saint-Jean-Port-Joli hésite à jouer le jeu. Son premier réflexe est de rester prudent puisque, de toute façon, nous n'en saurons jamais rien. Mais l'auteur du livre « Un pays rebelle, la côte du Sud et la guerre de l'indépendance américaine » a quand même quelques interrogations. On aurait pu devenir un État américain. C'était prévu dans leur projet de constitution d'admettre d'autres États. Mais pour ça, il nous aurait fallu former une assemblée. À ce moment-là, on n'avait pas d'instance pour décider. Et si on avait eu un parlement avec une majorité francophone, qu'est-ce qu'il aurait fait? Et si on devient un État américain, comment ça évolue? On garde la langue, la religion? C'est difficile. On dit des fois que 6 mois, c'est une éternité en politique. Imagine, 250 ans. C'est sûr que si on regarde la situation actuelle, on se dit qu'on aurait été bien malheureux d'être avec les Américains. Mais ça, c'est un jugement un peu anti-historique. Et d'ailleurs, on n'aurait peut-être pas dit ça il y a 50 ans. Je voudrais bien m'avancer, mais il y a tellement d'éventualités dans tout ça. C'était ces Québécois qui ont lutté pour l'indépendance américaine. Un dossier de Jean-Christophe Laurence paru le 14 juin 2026 dans la presse.
Connaissez-vous la technoférence? Un texte de l'équipe de Naître et Grandir paru le 20 mars 2026 dans Virage. On parle de technoférence lorsque les interactions entre deux personnes sont interrompues parce que l'une d'elles se met à utiliser son téléphone ou un autre écran. Or, faire cela souvent en présence d'un enfant peut entraîner des répercussions négatives sur son développement et son comportement. Des parents et grands-parents peuvent avoir tendance à consulter leur téléphone en présence de leur tout-petit, pensant que c'est sans conséquence. Cela arrive, par exemple, lorsqu'ils arrêtent de jouer avec l'enfant pour répondre à leurs messages, lorsqu'ils regardent des vidéos pendant qu'ils jouent au parc ou lorsqu'ils utilisent leur téléphone à table. Conséquence de la technoférence. Des études indiquent que les parents qui sont souvent distraits par leur téléphone seraient moins attentifs aux émotions et aux besoins de leur enfant et y répondraient moins rapidement. Ces parents soutiendraient d'ailleurs moins leur enfant dans ses apprentissages, exemple, nommer ses émotions, lui donner des instructions pour réussir une tâche. De plus, ils utiliseraient des phrases plus simples et plus courtes. Le fait d'être absorbé par un écran en présence de son enfant pourrait aussi nuire à la qualité de la relation. Quand un parent regarde son téléphone plutôt que son enfant, ce dernier peut se sentir moins important. Les interactions sont aussi moins fréquentes et le parent peut avoir tendance à être moins chaleureux. Conseil pour limiter les effets de la technoférence. Lorsque vous jouez avec votre petit enfant, prenez l'habitude de laisser votre tablette ou votre cellulaire dans une autre pièce. Vous éviterez ainsi de consulter votre appareil de façon automatique. N'apportez pas d'appareil mobile à table. Lors des repas en famille, éteignez-les et mettez-les hors de portée. Désactivez les notifications, ainsi vous ne serez pas dérangé quand vous passez du temps avec votre petit enfant. Déposez tout de suite votre appareil et regardez votre petit enfant lorsqu'il vous parle ou cherche votre attention. Choisissez d'accorder toute votre attention à votre petit enfant, même si vous faites une activité qui vous plaît moins avec lui. Résistez à l'attrait de votre appareil. C'était « Connaissez-vous la technoférence ?» un texte de l'équipe de Naître et grandir, paru le 20 mars 2026 dans Virage.